Gloire à Dieu. Amen. Vous allez bien? C'est vraiment une joie d'être dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous voulons vraiment continuer à l'adorer au travers de sa parole, continuer à ouvrir nos cœurs sur ce qu'il a à nous dire. Soyez les bienvenus si vous êtes de passage également. Est-ce qu'on peut, s'accueillir? Est-ce qu'on peut se souhaiter la bienvenue? Est-ce qu'on peut simplement dire à notre voisin ou à quelqu'un peut-être derrière, soit le bienvenu, soit béni dans le nom du Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Je ne sais pas quelle est votre expérience la plus terrible concernant une expérience olfactive, concernant les parfums, concernant l'odeur. Quelle est votre meilleure expérience et quelle est votre pire expérience? C'est une drôle de question, hein? Drôle de question. Ma pire expérience en termes de parfum, ça a été lorsque, une fois, on se promenait au bord de la mer d'Irlande. Il y avait les embruns, il y avait l'odeur de la mer. Il y avait vraiment, c'était très aéré. Et d'un seul coup, donc il y avait une espèce de petite falaise. Enfin, c'était pas vraiment une falaise, mais la plage était très, très en contrebas. Et à un moment donné, on a senti une odeur venue d'ailleurs. Terrible, terrible. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On est en pleine nature, il fait super bon, c'est vraiment l'air marin, et d'un seul coup, une odeur mais terrible de chez terrible. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on a regardé, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que sur la plage, c'était une plage sauvage, il y avait un cadavre de vache, une vache qui était en décomposition. Et on s'est dit, mais d'où elle sort? Il n'y avait absolument aucun troupeau. Et on a supposé, il y avait eu une tempête la veille, on a supposé que peut-être cette vache avait été éjectée d'un bateau, je n'en sais rien. Mais ce que je retiens, c'est cette odeur venue d'ailleurs, vraiment. C'était terrible. Je ne sais pas si vous avez une expérience comme ça. J'ose pas vous parler non plus. Une autre pire expérience, c'était l'odeur des sanitaires à l'armée. Ça fait des années, et pourtant, ce n'était pas faute de les nettoyer. Oui, on était vraiment de corvée, donc on les nettoyait. Mais je ne sais pas, peut-être quelqu'un était mandaté pour mettre des boules puantes, j'en sais rien. Je ne sais pas d'où ça sortait. Voilà, je sais, ce n'est pas très encourageant. Mais j'ai un meilleur exemple. Sur les Hauts-de-Montreux, vous avez qui a déjà été dans ces champs de narcisses au mois de mai? Oui, c'est extraordinaire, hein? Extraordinaire. Si vous aviez à choisir, ça c'est une question stupide, je sais, mais quelque part, juste pour nous sensibiliser, le thème ce matin, il est un peu abrupt, mais c'est, on peut lancer le PowerPoint, c'est le parfum de nos vies pour Dieu. Dans la Bible, il y a un certain nombre de passages qui illustrent, justement, on a prié ce matin et on a remercié le Seigneur pour nos vies qui sont transformées par Christ. Et le thème que je voudrais vous partager, c'est justement quel est le parfum de nos vies pour Dieu. Quel est le parfum qui peut se dégager de la qualité de nos cœurs, comportements, actions? Comment nos vies peuvent-elles être comme un parfum d'agréable odeur pour Dieu? Et ça, c'est pas juste, on va pas juste le partager ce matin. J'ai une série un petit peu de partage sur ce thème. Et le premier, on va le voir ce matin, en tout cas en partie, c'est le parfum d'une vie transformée par Christ. Il peut y avoir le parfum de notre relation avec Dieu dans l'adoration. Ce matin, moi j'aurais continué évidemment toute la journée. On est d'accord les louangeurs ? Il y a le parfum de notre obéissance, on va voir des textes, de notre générosité, de notre témoignage, de notre repentance et également de notre consécration. Donc ça, c'est un petit peu le thème qui va nous animer sur les prochains dimanches, peut-être pas tous, mais je vous invite à prendre la parole de Dieu. C'est dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 20. Et dans ce texte-là, c'est vraiment extraordinaire, c'est une prophétie de ce que l'on vit aujourd'hui. Prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, c'est quelqu'un qui a vécu en 593 à 570 de avant le Christ. Donc ça fait très longtemps. C'est un prophète qui est parti en exil à Babylone. Il a son appel prophétique, la cinquième année de la captivité de Joachim. Et c'est un prophète de l'Éternel. Et ce prophète va être consulté en plein exil par le peuple de Dieu. Plusieurs fois, le peuple de Dieu va venir pour le consulter. Et il est bon de consulter l'Éternel. Et quand on a le livre d'Ézéchiel, quand on lit le livre d'Ézéchiel, il y a trois grands axes. Le premier axe, il va prophétiser de la part de Dieu pour prévenir de changer de vie parce que la destruction, malheureusement, de Jérusalem arrive. Il y a une autre partie d'écrit, c'est qu'il va prophétiser sur des nations aux alentours. Et puis, c'est là, c'est ce qui nous intéresse. La troisième partie, c'est une fois qu'il y a eu la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, il part en exil. Et voilà qu'il continue de parler de la part de Dieu. Quand les situations sont désespérées, quand pour le peuple de Dieu, à ce moment-là, il n'y avait humainement plus d'espoir. Jérusalem détruite, en pays étranger, une condition terrible, et voilà que Dieu continue de parler. J'ai eu la pensée pendant qu'on avait ce temps de louange, de dire, mais d'ores et déjà, que notre foi soit renouvelée. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, Dieu reste Dieu. Il est capable de parler et il est capable d'agir. Amen. Et c'est le cas ici. Et il est dit, donc c'est une prophétie sur les temps messianiques. Des siècles avant, il va annoncer cette réalité. Il dira au verset 40... prophète Ézéchiel, il dira « Sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là je les recevrai favorablement. » Dans le mot hébreu, c'est « accepter »,« prendre plaisir »,« ratsa », c'est « approuver », c'est « avoir de l'affection ». Il y a même une notion de pardon. « Je les accueillerai favorablement ». Je rechercherai les offrandes, les prémices, les dons et tout ce que vous me consacrerez. Et on sait que dans la nouvelle alliance, il ne s'agit pas forcément de choses, mais il s'agit essentiellement de consacrer notre cœur, notre vie, notre temps. Et c'est là l'enjeu dans ce que Dieu dit à ce peuple, c'est de dire, mais parce que votre cœur s'est éloigné, vous allez être dans un pays qui va être compliqué. Mais il va venir un temps où je vais vous recevoir et je vais prendre plaisir à cela. Et il dira, c'est de la part de Dieu, c'est le verset que l'on peut garder en mémoire, non seulement ce matin, mais également dans les semaines qui arrivent. Dieu dit, je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, rassembler des pays, où vous êtes dispersés. Je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de par mon action, le miracle que j'opère dans votre histoire, pas seulement dans votre vie, mais dans votre histoire, eh bien les peuples vont reconnaître que Dieu est Dieu, que Christ est Seigneur, qu'il est ressuscité. On peut le dire aujourd'hui pour nous, si on est encore là, c'est parce que Dieu est vraiment fidèle, n'est-ce pas ? Amen. Qui a été déjà sur le point de tout laisser tomber ? Qui a été sur le point de dire « il n'y a plus d'espoir » et voilà que Dieu est arrivé au travers d'une parole, au travers de sa présence, au travers de son encouragement. Et on a continué. Amen. C'est extraordinaire, non ? Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand je vous aurai ramené au pays d'Israël et que j'ai juré de donner, à vos ancêtres. Et là, on peut faire le parallèle avec Paul, lorsque dans 2 Corinthiens 6, au verset 16 à 18, il va exhorter, il va encourager l'Église à sortir du milieu d'eux, de séparer ce qui est impur et de ce qui est pur. Et il dira, alors je vous recevrai, je vous accueillerai. Et il va même plus loin hein, dans la Nouvelle Alliance. Non seulement il y a un accueil de la part de Dieu, et ça c'est la bonne nouvelle pour nous ce matin, de dire qu'est-ce que je fais là, où j'en suis. Je peux dire par la foi que Dieu nous accueille et qu'il nous reçoit. Et Paul va plus loin dans 2 Corinthiens 6, il dira même, vous serez mes fils et mes filles, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça c'est quelque chose qui a, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose que le Seigneur est obligé de me rappeler régulièrement. Il est obligé de me le redire, de me le rappeler. C'est pas, en tout cas, pour, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas inné. C'est pas quelque chose de naturel. Et quand, des fois, je suis dans des situations qui sont inextricables, où je me dis, mais je vais pas m'en sortir, à des moments donnés, l'Esprit de Dieu me rappelle. Il me dit, mais tu sais, tu as pas seulement un Dieu puissant que tu sers, mais tu as également un père. Et je ne sais pas pour vous, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, les relations au père naturel, des fois, si c'était bon pour vous, tant mieux. Moi, ça a été un peu compliqué, je l'aime beaucoup. Je les aime beaucoup, même les pères spirituels. Mais ça a été compliqué. Et donc, naturellement, des fois, je me dis, voilà, c'est, des fois, je colle l'expérience terrestre au Père divin. Et il y a tout un travail qui a besoin d'être fait. Et Dieu nous dit ce matin, je crois profondément, en tant que chrétien, en tant que fils et fille du Père, quelle que soit notre histoire, Dieu nous dit, je t'accueille. Et ce n'est pas seulement je t'accueille, bienvenue, tu es dans un coin, tu es inconnu. C'est plus que ça, on l'a vu. Hein. C'est je prends plaisir. Vraiment, je prends plaisir. Et vous savez, la preuve de cela, c'est que Dieu a donné son Fils sur la croix, pour qu'il souffre, qu'il ressuscite et qu'il revienne auprès du Père. Et ce matin, ça a été rappelé. Et si j'ai un doute par rapport à cela, je me rappelle la parole de Dieu. Je me rappelle de cette réalité, que le Père nous a tellement aimés. Juste, est-ce qu'on peut faire descendre ce verset de notre cerveau à notre cœur. On peut ? Voilà, David se lève pour que ça descende. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement un jour je vais goûter à cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette vie, cette relation. Quand il est parlé de vie dans la parole de Dieu, il est parlé de relation. Et quand il est parlé de mort, il est parlé de coupure, de non-relation. Et quel bonheur de pouvoir se rassembler et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ est vraiment venu pour nous accorder cette réconciliation avec le Père Céleste. Amen. On a besoin, j'ai besoin que ça descende de mon cerveau, dans mon cœur, dans mes entrailles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce matin cet accès auprès du Père. C'est la raison pour laquelle, par son Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alors, je ne veux pas vous faire dire... je sais que Daniel, il a horreur de ça. mais... Redites, qu'on puisse redire à notre cœur, intérieurement, tu es fils, tu es fille du Père. Ça a été annoncé il y a 6 siècles, même plus d'ailleurs, mais c'est la réalité aujourd'hui. Quel que soit ce que l'on vit, on peut le dire intérieurement, je suis fils, je suis fille, je suis accueilli favorablement. Amen. Amen. On dit simplement la vérité, hein, ce que Dieu a fait. Et si ce n'est pas votre cas, ce matin, eh bien, le chemin est ouvert. Christ est sauveur de tous les hommes et de toutes les femmes. Et il y a possibilité de vivre cette réalité. Quand Dieu dit cela, quelques versets auparavant, il va dire quelque chose de... Voilà, il va expliquer pourquoi il annonce ça, il annonce cette réalité de la Nouvelle Alliance. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez voir les versets qui sont un petit peu avant, au verset 28 d'Ézéchiel 20, c'est les versets 28 à 31. Et Dieu dit, je les ai fait entrer dans le pays que j'avais juré de leur donner, donc il y a cette conquête, ils prennent le pays, et partout où ils ont vu une colline élevée ou un arbre vert, ils ont offert leurs sacrifices et ils ont présenté leurs offrandes qui méritait Ézéchiel 20, au verset 28 à 31. Ils y ont apporté leur parfum apaisant et y ont répandu leur libation. Dans la version hébraïque, il est dit littéralement, c'est là qu'ils présentaient la provocation de leurs offrandes. Dieu les libère. Ils ont vécu l'Égypte. Ils ont vécu la libération. Ils ont vécu la conquête dans ce pays. Et malgré tout, l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Et Dieu leur dira, mais vous avez offert des offrandes, on pourrait dire, vous êtes venus au culte, vous avez donné vos offrandes, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais leur cœur n'était pas quelque part pour Dieu. Et dans le texte, provocation, il y a l'idée de chagrin, de peine, d'anxiété, de colère, de mécontentement. Et là, on a un texte qui est quand même assez particulier, parce qu'ils vont venir pour offrir des parfums, et il est parlé de parfums apaisants. Et c'est là qu'on touche du doigt cette réalité qu'on n'est pas en train de parler des parfums physiques, on n'est pas en train de parler de la forme, on n'est pas en train de parler de la forme de nos cultes. Mais il est question de notre cœur. Parce qu'Ézéchiel dira, vous venez et le parfum sent bon. Mais c'est un parfum qui provoque ma colère. C'est un parfum qui m'attriste. Et je me dis, mais des fois, qu'est-ce qui dans ma vie me semble bien, mais qui au final... finalement, ne plaît pas forcément à Dieu. Des fois, selon mes critères, je me dis, c'est pas mal, non? On a été évangélisé, on a donné ce qu'il fallait, on a tout fait. C'est super. Qu'est-ce qui se passe? Et on sent pas cette liberté, en tout cas moi, des fois, je sens pas cette liberté par rapport à Dieu. Et ce qui fait la différence, j'aime vraiment le Seigneur, parce qu'il fait pas de différence, il fait pas de favoritisme. Il nous dit la vérité, pourquoi? Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu en Christ. Et Dieu nous aime, et inévitablement, si on prend le temps de l'écouter, il va nous montrer ce qui a besoin d'être changé. Et en l'occurrence ici, au verset 30, Et le prophète va dire clairement pourquoi. Pourquoi ce sont des offrandes qui sont compliquées. Pourquoi ? Ben parce qu'ils adorent en même temps d'autres dieux. Ils offrent des offrandes à d'autres dieux. Et on apprend dans la parole de Dieu qu'on ne peut pas adorer Dieu et en même temps adorer quelque chose d'autre. Et donc, ça va être compliqué, donc c'est la raison pour laquelle. Et puis, il dira aussi au verset 32 d'Ézéchiel 20, il dira, mais vous dites, nous voulons être comme les nations qui nous entourent. Et ça a posé problème, parce que l'appel du peuple de Dieu, c'est d'être une bénédiction pour les nations, mais c'est de ne pas leur ressembler dans les valeurs, dans la mentalité, dans qui ils adorent. Et je crois que c'est toujours d'actualité pour l'Église. On est dans le monde, Dieu nous appelle à bénir, prier pour les autorités. On a eu jeudi soir super rencontre avec les différentes églises, en tout cas une partie des églises de la région. Et ce sont des temps forts. Et je crois que Dieu agit, Dieu entend la prière de son peuple. Dieu agit et Dieu entend la prière de l'Église. Et en même temps, à un moment donné, on a besoin de se dire, mais est-ce que ce que je fais ou ma vie, quel parfum a-t-il devant Dieu ? Et ce que je voudrais dire, quand on lit ce texte-là, le parfum d'une vie transformée est quelque chose d'agréable à Dieu. Dieu se réjouit de cela. Nouvelle naissance, mais également, la Bible me dit dans Galates, chapitre 5, et il dira, donc c'est Paul qui parle au verset 16, il dira, mais marchez par l'esprit et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair s'opposent à l'esprit et les désirs de l'esprit s'opposent à la chair parce qu'ils s'opposent l'un à l'autre pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. C'est dur, hein, la part de Dieu. La réalité, c'est que si nous sommes nés de nouveau, à ce moment-là, la Bible ou la parole de Dieu me montre finalement, et puis c'est quelque chose de super d'ailleurs, c'est Dieu nous dit, finalement, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau, amen. C'est magnifique, hein ? On a cette assurance d'avoir la vie éternelle. Et en même temps, tant qu'on sera sur la terre, Dieu nous dit, mais finalement, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Mais c'est magnifique en même temps, hein, d'appartenir à Dieu, c'est génial. L'Esprit de Dieu en nous amène à faire les bons choix et que notre vie ait un sens. Une vie transformée, c'est pas seulement quand on est de nouveau, mais c'est également quand je laisse l'Esprit de Dieu me conduire, me renouveler dans ma mentalité, me renouveler dans la manière de voir les choses. Et c'est là où Dieu est honoré. Amen. Et c'est là que l'Église avance. Et c'est là que nous pouvons voir aussi le fruit, parce que Dieu confirme, Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en même temps, c'est lui qui nous conduit pour que nous puissions porter du fruit. Alors, quand on parle de parfum, dans la vie de Jésus, je vous pose une question. Est-ce que dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive, est-ce qu'ils offrent des parfums, à votre avis ? On sait, on le verra plus tard, hein, pas ce matin, mais vous savez que dans le tabernacle, il y avait l'autel des parfums. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Est-ce que dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive, est-ce qu'il y avait des parfums qui étaient offerts ? Alors, quand on fait une recherche, il y a deux raisons pour lesquelles ils utilisaient un parfum dans l'Église. D'abord, certains ont dit, mais on n'a pas besoin de parfum parce que la présence de Dieu même est un parfum d'agréable odeur. Il y avait une raison très pratique. À l'époque, il faisait très chaud. Il y avait des réunions, des fois, avec beaucoup de personnes. Et à cause de cela, ben, d'une manière très pratique, on utilisait du parfum à l'époque. Et puis, il y en a une autre qui est très intéressante. Et je crois que, en tout cas, ça me parle. À l'époque, ils utilisaient quelquefois un parfum pendant l'enseignement biblique. De manière à ce que ce soit comme une façon de se souvenir. Il est dit d'associer pour la vie entière, grâce à la ténacité de la mémoire olfactive, les souvenirs de l'instruction de la Bible, notamment pour les enfants. Allô ? Est-ce qu'il y a des odeurs, des parfums, on va dire ça comme ça, qui vous rappellent des souvenirs, qui vous renvoient des années en arrière ? Est-ce que c'est le cas ? Oui, moi je me souviens du parfum de Sabine. Lorsqu'on était fiancés, elle avait un parfum, on était fiancés, on était sur le campus, dans l'université, et des fois on mangeait ensemble sur les terrains de sport, et je m'en souviens encore. Et quand je sens cette odeur, ça me renvoie à tous les partages qu'on a eus, toute cette période, et qui est vraiment un bon souvenir, évidemment. Elle est là, hein, faut que je... Si, je vous assure. Et puis, je me souviens également, il y avait un couple aussi dans l'église dans laquelle j'étais jeune converti, puis c'était un couple qui priait pour les frères et sœurs, qui avaient vraiment un discernement extraordinaire, et qui priait aussi pour la délivrance, et notamment. Et je me souviens que dans leur appartement, à chaque fois que j'y allais, je ne sais pas expliquer, franchement, je ne sais pas, si c'était l'odeur de l'appartement ou je ne sais, mais il y avait à chaque fois une odeur spécifique qui était dégagée. Et cette odeur-là, à chaque fois que je rentrais, d'un seul coup, ça m'a rappelé les temps de bénédiction, les temps de partage, les temps d'exhortation, les temps où j'ai vécu des défis, mais aussi des bénédictions. C'est étonnant, hein ? Et à chaque fois, il y avait cette odeur particulière. Donc je peux comprendre que les parfums peuvent être également utilisés comme un moyen, pas mémotechnique, mais un moyen de souvenir de la mémoire olfactive. Et je voudrais terminer par cette histoire. Vous savez, dans la vie de Jésus, est-ce que vous vous souvenez quels sont les épisodes où Jésus a été en contact avec des parfums ? Oui ? Le nard pur ? Oui, plusieurs exemples. Hein. Alors, je vais prendre le premier et je vais prendre le dernier. Le dernier, je ne vais pas le prendre ce matin, mais le premier, c'est l'épisode dans Matthieu 2, au verset 1 à 12. C'est l'épisode des savants, des sages venus d'Orient. Et vous vous souvenez ce qu'ils vont apporter à l'enfant, au bébé Jésus ? Ils vont apporter quoi ? Ils vont apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et Jésus est un bébé. Et juste une semaine avant la crucifixion de Jésus, vous vous souvenez de qui va déverser un parfum de nard pur sur les pieds de Jésus ? C'est Marie, la sœur de Lazare. Et au travers de ces épisodes-là, je voudrais juste souligner pour Jésus, alors Jésus est bébé dans l'épisode de Matthieu 2, mais aussi pour les parents, quels vont être les souvenirs liés à ces parfums. On peut prendre le texte, je vous invite à prendre le texte des sages ou des mages, Matthieu 2, verset 1 à 12, où il est dit que Jésus donc est né à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Des sages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et ils vont poser cette question qui est une question qui est fondamentale, et on peut se la poser également si on ne connaît pas Jésus. Où est Jésus ? Et il est parlé du roi des Juifs qui vient de naître. En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, c'est un bon programme. On a tout l'épisode d'Hérode. Le roi, à ce moment-là, va être profondément troublé. Et il est dit que tout Jérusalem avec. Ils vont être troublés de cette question. Et ils vont se renseigner, il aurait dû être au courant pourtant, hein, mais il va demander à tous les spécialistes de la loi, et ils vont dire, mais quand et où, en tout cas, où doit naître le Messie? Ils vont se renseigner, et le prophète Michée dira au chapitre 5 et au verset 1 et 2, ben, il va annoncer que le Messie va naître où? À Bethléem. Oui. Alors il va dire, c'est un filou cet Hérode, hein, et il va leur dire, ok, écoutez, allez-y, normalement il doit naître là, allez-y, adorez-le, et revenez me dire où il est pour que je puisse l'adorer. Et là, évidemment, on va voir la suite, ils vont être avertis de ne pas revenir à Jérusalem, ils vont être conduits par cette étoile, c'est un miracle, ils vont être remplis de joie, ils vont aller dans la maison, rentrer dans cette maison où est Jésus bébé, mais il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs déjà. Ils vont se prosterner, ils vont l'adorer et ils vont lui offrir de l'or qui représente quoi dans la parole? La royauté. L'encens représente la divinité et la myrrhe va représenter le sacrifice, la mort, c'est avec la myrrhe qu'on utilisait pour les corps à l'époque. Et à ce moment-là, ils vont repartir, et il est dit que, d'une manière surnaturelle, ils vont revenir dans leur pays sans passer par Jérusalem. Vous connaissez cette histoire, j'imagine, hein? Moi, je réfléchis. Après, au verset 16, Hérode est fou de rage. Il voit qu'il s'est fait avoir et il va envoyer ses troupes pour tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Entre-temps, Joseph, Marie et l'enfant vont partir en Égypte. Et en partant en Égypte, ils vont amener l'or, l'encens et la myrrhe. Ça va leur servir pour survivre, pour vivre, mais également, je me suis fait cette réflexion un peu le jour d'après, ils arrivent en Égypte et ils vont sentir l'encens, ils vont sentir la myrrhe. Et Jésus est là, il est bébé, mais il sent ce parfum. Et je me suis posé la question, quel est le parfum de ces hommes? Qu'est-ce qui va être rappelé à Marie, Joseph et à Jésus? Le parfum de leur vie, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui va être rappelé? On voit ces hommes qui viennent, on ne sait pas trop, de Perse, d'Arabie, Babylone, on ne sait pas. Ils viennent d'Orient en tout cas. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu est capable de parler à n'importe qui. Il est capable de changer la vie de quiconque. Parce que quand on parle de savant, de sage, ça c'est un peu gênant pour les prédicateurs ou pour les exégètes, c'est que le mot grec, ça signifie également magicien, astrologue. On a Elimas le magicien, acte 13, où le même nom est employé. Alors bon, on va dire, ce sont des spécialistes, ce sont de l'astronomie. On a beau le prendre par tous les sens, quand même il faut dire que en Orient, beaucoup utilisaient les sciences magiques. Alors on sait que dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu ne permet pas. Il est dit dans la parole de Dieu, il est dit que lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, etc., etc., etc. Donc qu'on soit clair, c'est clair dans la parole. Et moi, je l'ai tourné dans tous les sens, j'ai dit, mais quand même, ces hommes, à aucun moment, il est mentionné qu'ils aient fait des arts magiques pour cela. On ne sait pas forcément d'où ils viennent, on ne sait pas forcément qui ils sont, mais même si ça avait été des magiciens, Dieu est capable de transformer des vies. On avait dans notre église quelqu'un qui habitait dans le sud-est du pays. C'était véritablement quelqu'un qui recevait, quelqu'un qui était dans les sciences occultes à un haut point. Vraiment, il avait même des hommes politiques, etc. Et il s'est converti. Et on a pu prier, en tout cas une équipe a pu prier pour lui, et il expliquait comment ça fonctionnait. Donc quel que soit le passé de ces hommes, Dieu s'est servi d'eux, leur a montré au travers de... C'est pas une étoile, il y a toutes des conjectures, des suppositions, des débats, on peut lire plein de choses sur ça. Quand on lit la parole, on se dit il y a eu quelque chose de surnaturel. Ils ont été capables de reconnaître qu'il y a eu comme un message de la part de Dieu, peut-être qu'ils ne connaissaient pas encore. Ils ont eu cette capacité de prendre le risque de quitter leur pays, de prendre des objets précieux et de faire des kilomètres pour honorer quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas encore. Et pour moi, quand Marie, Joseph et même l'enfant Jésus vont sentir dans la maison ce parfum, eh bien, on peut dire que c'est le parfum d'une foi courageuse. Le parfum d'hommes qui ont pris le risque de quitter leur pays sur un message de Dieu. Et des fois, on se dit, mais peut-être certains ce matin, vous dites, la Bible, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Jésus vraiment a existé? Et je crois qu'ici, on peut prendre un temps après le culte. Si vous avez un doute, vous pouvez aller voir les uns et les autres, demander le témoignage. Qui a été guéri déjà de la part de Dieu, surnaturellement? Qui a l'assurance d'avoir la vie éternelle? Qui a déjà eu une direction claire pour sa vie? Il y a pas mal de mains. Hein, regardez les mains et après le culte, allez voir et demandez-leur leur témoignage. Le témoignage d'un parfum d'une foi qui est courageuse et qui va, ils vont se lever. Est-ce qu'on se rend compte que ces hommes vont arriver vers Hérode, à Jérusalem, et vont dire « Où est le roi des Juifs qui devait naître ?» C'est les premiers évangélistes. Tout Jérusalem est perturbé. Ce sont les premiers à annoncer que Jésus, le Messie, est arrivé. C'est extraordinaire, non? Pourquoi? Parce qu'ils ont osé se lever, sortir de leur zone de confort, et ils ont osé marcher, aller, même vers Hérode. Alors quand on se lève en réponse à ce que Dieu nous dit, alors l'ennemi aussi se lève. Il y a un piège. Hérode est un paranoïaque. Il a une peur bleue de perdre son trône. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que nous ne soyons pas encore chrétiens ou que nous soyons chrétiens, quand Dieu nous parle et qu'on se lève, il y a un conflit d'autorité. D'un seul coup, on se lève pour Dieu, mais contre l'ennemi, le diable, qui ne veut pas que nous marchions pour Dieu. Et là, il y a un conflit d'autorité. Il y a Hérode, d'un seul coup, qui dit, au lieu de dire, comme il l'a dit, « je vais adorer le Messie », en réalité, il veut le tuer, comme Pharaon a voulu tuer Moïse. Qu'on ne soit pas surpris de tous les combats qu'on peut avoir. Ne soyons pas surpris, des fois, de toutes les pensées qui veulent nous faire arrêter. Ne soyons pas surpris de tout ce qui se lève pour nous empêcher de le servir. Ne soyons pas surpris de tous les défis, les difficultés. Des fois même les maladies, les conflits dans la famille, conflits dans le travail, sentiments de solitude, toutes sortes de choses qui se lèvent. Alors quelquefois c'est parce qu'on a fait les mauvais choix, ça c'est possible. Mais si véritablement notre cœur est de continuer à avancer pour Dieu, à ce moment-là, bien sûr, vous savez, je ne sais pas si vous avez, est-ce que vous avez écouté LCI ? Récemment, j'étais stupéfait, il y a une journaliste qui a donné les chiffres de portes ouvertes par rapport à la persécution des chrétiens dans le monde. C'est passé il y a quelques jours. Et le journaliste, je ne sais plus qui c'était, quelqu'un d'assez connu, était là, ils étaient tous stupéfaits sur le plateau. Et cette journaliste a été très très claire, qui n'est même pas chrétienne. Elle a cité les chiffres de portes ouvertes, de dire, mais est-ce que vous savez quelle est la religion qui est la plus persécutée dans le monde ? Elle a posé ça sur... Et c'est passé vraiment à une heure de grande écoute. Et elle a dit, mais ce sont les chrétiens. Et elle a cité le nombre de chrétiens morts, persécutés selon les pays. Et les journalistes étaient comme ça. Et elle dira, mais on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Tout le monde était étonné sur le plateau. Mais nous, on ne l'est pas. Parce que lorsqu'on se lève pour Dieu, alors il y a une opposition. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'est pas à court de ressources. Il a envoyé cette étoile pour ses hommes, pour les guider. Et il va également les avertir de ne pas retourner. C'est là où on a besoin d'être sensible. Le parfum de l'obéissance, c'est intéressant. Il est dit dans le texte, il est dit qu'ils ont été avertis par un rêve. Alors évidemment, il n'est pas mention d'ange, il n'est pas mention de Dieu. Mais le terme grec qui est utilisé spécifiquement pour des communications divines. On le retrouvera dans différents textes. Et au lieu de dire, bon, on a fait ce rêve, est-ce que ça vient de Dieu ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Bon, c'est pas si grave, hein ? On va retourner à Jérusalem. Ils ont tenu compte de cela, parfum de l'obéissance. Et puis je finis avec un autre parfum, c'est le troisième. Le parfum, on a dit de quoi ? De la foi courageuse. Le parfum de cette obéissance. Le parfum du témoignage. Ils ont annoncé à l'avance que Christ, ce bébé, est roi. Il est divin et il va donner sa vie. Waouh ! Mais je ne sais pas s'ils étaient vraiment conscients de ça. Mais parce que c'est dans la parole de Dieu et qu'on a toute l'histoire, ces hommes ont annoncé cela. Et puis, peut-être le dernier encore, c'est les pasteurs, c'est terrible. Je suis assez passionné par ces textes parce qu'ils m'ont tellement fait du bien. Vous savez quoi ? Ils ont offert à ce bébé dans cette petite maison à Bethléem, ce n'était pas un palais, ils ont offert des choses qui étaient précieuses, des choses qui coûtaient cher. Et des fois, dans notre vie, on se dit, vous savez, il faut juste qu'on fasse attention. Nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes christocentriques et pas humanistes. Ce n'est pas nous qui sommes au centre, mais c'est Dieu. Et parce que Dieu est au centre, à ce moment-là, il y a des bonnes choses qui peuvent nous arriver. Allô ? Et ils vont offrir des choses qui coûtent cher, des choses précieuses. Et ce matin, je pensais, et c'est cet appel que je vais faire maintenant, je pensais à tout ce qui est compliqué dans nos vies. Et je sentais par l'esprit comme un encouragement de dire, tu es dans une situation qui est compliquée, qui est difficile, et tu es sur le point d'arrêter. Et de donner quelque chose qui nous coûte, c'est quoi ? C'est de dire, malgré la difficulté, malgré tout ce qui se lève pour nous décourager, ce qui me coûte, c'est de dire, Seigneur, je continue de te faire confiance. Je continue de te servir. Je continue de t'aimer. Je continue de lire ta parole. Je continue de prier. Ne nous relâchons pas dans l'intercession. Ne nous relâchons pas parce que Dieu est fidèle. Non pas parce qu'on va être bien et qu'on a beaucoup prié et que ça va être super, mais parce que Dieu est Dieu et qu'il est fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît ? On va prier quelques instants dans ce sens. Et on va que notre vie soit ce parfum, parfum d'adoration, de consécration, et de dire à Dieu, là où nous en sommes ensemble, et je me mets avec vous, je descends même, Seigneur, nous voici devant toi. Et tu vois là où nous en sommes. On a eu des victoires, on a eu de la joie, mais peut-être que maintenant, dans ce début d'année, nous sommes éprouvés. Il y a des choses qui sont compliquées. Certains peut-être cherchent un travail dans le domaine professionnel, familial, de santé. Et comme l'ennemi se lève pour te décourager. Et peut-être que tu es sur le point aussi de donner ta vie à Jésus. Et il y a quelque chose qui se lève aussi en disant, mais est-ce que tu es sûr? Si tu donnes ta vie à Dieu, tu n'auras plus de liberté. Si tu fais ça, et je sens aussi ce matin que Dieu veut sauver, veut libérer. La promesse de la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement un cœur qui est pardonné, mais c'est un cœur qui est libéré. Amen. Libération dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que nous sommes dans sa présence, tranquillement, on peut lui parler et on peut lui dire, Seigneur, je te dépose ce fardeau, je te dépose cette difficulté, je te dépose mes désillusions, je te dépose mon découragement, je te dépose toutes mes questions. Et je te redonne mon cœur, ce qui me coûte le plus, mon cœur. Et si vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez lui dire, Christ, pardon pour mon péché, pardon pour ma vie passée. Je crois que tu es mort, que tu es ressuscité. Je crois que tu as donné ta vie pour le pardon de mes péchés. Je te donne ma vie ce matin. Et que nous puissions le faire librement, sincèrement. Dieu est fidèle. Merci Père. Merci Seigneur. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Te disons merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Te remercions pour, Seigneur, ta parole qui est la vérité. Te remercions pour le chemin parcouru avec toi. Et merci Père, parce que en tant qu'Église et en tant que fils et filles du roi, nous voulons simplement t'offrir ce parfum. Parfum d'une foi courageuse, parfum de consécration, d'adoration, ce parfum du témoignage. On ne peut pas le faire par nous-mêmes, mais Saint-Esprit, viens. Et je proclame ce matin ta victoire dans la vie. Je proclame ta victoire, ta libération, ta guérison. Merci Père, parce que tu relèves celui qui est découragé. Et merci parce que, Seigneur, nous voulons être devant toi, comme cette Église qui témoigne, pas seulement avec notre bouche, mais avec ce que l'on vit, de qui tu es. Tu es un Dieu vivant et vrai, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père.